Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces émissions de podcast. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec un dossier qui est consacré au Sahel, question des coups d'État, des transitions démocratiques, la présence de la Chine, le recul de la France, et puis, comme à chaque fois, les chroniques habituelles, la rubrique Enjeux. Vous pouvez retrouver là aussi les auteurs que vous avez l'habitude de lire sur des sujets assez vastes. Et puis, Conflit se retrouve aussi sur son site internet revueconflit.com où vous pouvez vous abonner, abonner vos proches. Vous le savez, Conflit ne vit que par ses lecteurs, qu'ils soient abonnés ou qu'ils achètent la revue en kiosque. Et donc, en achetant Conflit ou en vous abonnant, vous permettez à la revue de se développer et puis vous proposez aussi du contenu en libre accès, comme ces émissions que vous pouvez retrouver deux fois par semaine sur l'ensemble des plateformes de podcast. Alors cette semaine, nous allons évoquer un sujet majeur, peut-être le sujet majeur de la géopolitique, puisqu'il s'agit des frontières. Alors c'est un sujet qui est important et qui en plus se trouve être au concours de nombreux programmes, de nombreux concours, alors notamment aux questions du bac, également diverses agrégations en géographie et en classe préparatoire aussi. Donc pour ceux qui préparent ces concours, vous allez avoir en une quarantaine de minutes l'essentiel à connaître sur la notion de frontière. Et pour en parler, je reçois cette semaine deux invités, Mathieu Grandpiron et Christophe Réveillard. Bonjour.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être venus à notre micro. Vous êtes tous les deux universitaires, Christophe Réveillard notamment rattaché à Sorbonne Université, au centre Roland Mounier, et Mathieu Grandpiron, maître de conférence et directeur de la licence de sciences politiques de l'ICES. Vous avez contribué à un ouvrage commun, ouvrage collectif qui s'intitule « La frontière, espace et limite » qui est paru chez SPM Éditions. Alors comme chaque semaine, l'ensemble des références de l'ouvrage sont à retrouver sur le site de Conflit. Un ouvrage collectif, donc vous avez assuré la direction. On a à l'intérieur de très nombreux contributeurs sur le sujet de la frontière assez large. On a une partie historique, on a une partie actuelle. Il y a par exemple un article sur le limès romain, un autre sur la question des frontières de l'Allemagne et des rapports Allemagne à l'époque médiévale. C'est un article de Sylvain Guggenheim. Il y a aussi d'ailleurs dans l'ouvrage beaucoup d'auteurs que vous pouvez retrouver sur le site et dans la revue Conflit. Un ouvrage vraiment majeur qui se lit évidemment les chapitres sont indépendants des uns des autres, mais vous avez fait une introduction et une conclusion qui permettent de remettre le tout dans un ensemble, mais qui est vraiment un ouvrage majeur pour comprendre cette notion de frontière. Alors, Christophe Réveillard, on va commencer par des choses très simples. Les choses très simples sont souvent les plus compliquées pour y répondre. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière et pourquoi avoir mis comme titre « La frontière » et non pas « Les frontières »
Ah, c'est une très bonne question. Merci beaucoup de nous la poser. Alors, on va peut-être commencer par la définition. Les frontières, on va faire le processus de définition générale jusqu'à préciser tous les détails. Mais on peut dire que ce sont des enveloppes externes des territoires des États. Et les frontières internationales ou dites interétatiques sont des lignes qui séparent les compétences étatiques. Et évidemment, il est difficile de donner des définitions de la frontière sans citer un auteur français qui est connu vraiment mondialement sur la notion de frontière, qui est Michel Fouché, et qui écrit que, je cite, « La frontière est une discontinuité géopolitique à fonction de marquage réel, symbolique ou imaginaire, ou une construction territoriale qui met de la distance dans la proximité. » Et c'est là où je réponds à votre deuxième question, pourquoi avoir sous-titré espace et limite, c'est que la frontière a cette dualité, cette ambivalence entre le territoire connu, le territoire délimité d'une communauté nationale, d'une communauté géographique, d'une communauté économique et l'extérieur. Il y a dans la notion de frontière le « eux » et le « nous », ce qui ne veut pas dire que la frontière est une fermeture, bien au contraire, elle est aussi un lieu de passage, elle est aussi un lieu d'échange. Et cette, non pas ambiguïté, mais ambivalence, je dirais, de la frontière est tout à fait manifeste dans la notion à la fois d'espace et à la fois de limite. Le problème de la doxa, de la doctrine, successivement, on a eu plusieurs doctrines d'une frontière absolue, 19e siècle et début du 20e, et l'inverse, dans les années 80-90, au contraire, il fallait subsumer la notion de frontière à celui d'un débordement, globalisant. Le problème des doxas dominantes, c'est justement d'aller soit totalement dans la limite, soit totalement dans l'espace. Nous proposons dans cet ouvrage, justement, co-dirigé avec Mathieu Grandpierron, eh bien, de donner pleinement le sens de la frontière, qui est à la fois effectivement une délimitation d'espace et en même temps un espace ouvert, un espace de partage civilisationnel.
Et pourquoi pas consacrer Mathieu Grandpierron un ouvrage à cette question de la frontière? Effectivement, il y a 10-15 ans, c'était pas vraiment un sujet. Alors, du moins, ça allait de soi que la frontière allait disparaître et qu'elle n'avait plus d'utilité. Aujourd'hui, on en reparle, mais consacrer un ouvrage, c'est un effet de mode ou un effet de balancier ou est-ce que ça va aussi au-delà de réfléchir à ce qu'est une frontière, à ce qu'elles peuvent apporter?
Alors c'est vrai que il y a, à la fin de la guerre froide, on ne se posait plus vraiment la question. Toutes les frontières allaient disparaître. Pour reprendre Fukuyama, la démocratie libérale avait gagné et on allait, d'après lui, tendre vers l'uniformisation des systèmes politiques, des modes de vie, des systèmes économiques. Et dans ce contexte, bah, à quoi servirait la frontière si ce n'est à freiner cette uniformisation? Le processus de la construction européenne allait également dans ce sens. Mais ça, c'était dans la vague idéaliste qui a primé à la fin de la guerre froide. Et depuis, on constate que la frontière, déjà, elle est toujours là. La notion est toujours là. Et qu'il y a en même temps une volonté de peuple et d'État, soit de rectifier certaines frontières qui sont perçues comme un legs humiliant de moments spécifiques historiques. Et des peuples en quête d'unité qui posent cette question de vouloir avoir des frontières vraiment à eux, donc qu'on le veuille ou non, et la guerre en Ukraine en est aujourd'hui une expression, la frontière est bel et bien de retour, à la fois en tant qu'objet des conflits, à la fois en tant que programme politique et de manière implicite au cœur des questions économiques dont... La dernière expression étant la grève des agriculteurs en France.
Parmi le corpus d'auteurs qui interviennent dans l'ouvrage, on a des profils assez variés. Il y a des historiens, des juristes, des géographes. Est-ce que ça veut dire que la frontière qui apparemment simple, une ligne, pour l'appréhender dans sa complexité, il faut faire appel à différentes méthodes scientifiques, différents domaines scientifiques, et qu'il faut avoir ces différents regards pour bien les comprendre?
Alors oui, et on a voulu faire intervenir à la fois des historiens, des juristes, des politistes, des géographes et des philosophes. D'abord parce que la plupart des ouvrages proposés en France sur la frontière étaient monothématiques, c'est soit des ouvrages de géographie, soit de géopolitique, mais encore une fois, le fait de traiter un concept uniquement sous le prisme d'une discipline, on n'arrive pas à en faire le tour et on risquerait de se renfermer dans une étroitesse de pensée. Et on a voulu faire l'inverse, prendre une notion générale, la frontière, et ensuite la déplier sous différentes perspectives et à différentes époques. Même si les chapitres sont indépendants les uns des autres, chacun offre une perspective et une réponse particulière à comment penser la frontière.
Alors, l'ouvrage a aussi la qualité d'être composé de très nombreuses cartes, dont plusieurs d'ailleurs sont en couleur, ce qui évidemment permet d'illustrer le propos et de mieux le comprendre, parce que parler de géographie, de géopolitique sans cartes, c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut remercier aussi l'éditeur qui a fait cet effort, parce que évidemment, c'est aussi compliqué de faire des impressions en couleur pour des questions de coût et autres. Autre question sur la frontière, on a évoqué le fait que ce soit une limite, que ce soit un trait. Il y a des frontières qui sont un peu floues, on va avoir du mal à bien les définir. Alors, notamment frontières africaines, frontières parfois en Amérique latine, où la question de l'État n'est pas forcément évidente. Il peut y avoir soit des peuples nomades qui passent d'un côté ou de l'autre de la frontière, soit des réseaux criminels qui se jouent des frontières. Prends les trafics de drogue, par exemple. La frontière n'est pas vraiment un sujet, ou elle en est un, mais en tout cas, la frontière n'est pas du tout une limite pour eux.
C'est pour la raison pour laquelle on a choisi de faire de dérouler un plan qui soit chronothématique, c'est-à-dire que nous reprenons les différentes périodes et les différentes conceptions même de la frontière. En réalité, la nuance de la frontière est infinie, puisqu'il faut géolocaliser les frontières pour comprendre les problèmes correspondants. Vous citez l'Afrique, l'Afrique elle-même a été confrontée à une imposition coloniale hein, des frontières, mais sans surprise, l'OUA elle-même, devenue l'UA depuis, l'Union africaine, eh bien, a elle-même finalement accepté une sorte d'intangibilité des frontières dont la plupart des Africains des années 60, ceux accédant à l'indépendance, avaient fait leur cheval de bataille pour mieux les contester. Donc on voit bien qu'il y a une ambivalence de temps, une ambivalence de temporalité et une ambivalence de géographie dans la notion de frontière. Il y a des nuances extraordinaires. Par exemple, sur l'Asie. L'Asie, c'est dans l'histoire pratiquement les plus grands empires. Comment reconstituer des frontières à partir de leur successeur, je dirais, juridique, sur un modèle européen. C'est très difficile à comprendre. Nous avons un chapitre écrit par Olivier Hahn sur le Proche-Orient et sur le Moyen-Orient et qui nous explique que la notion même de frontière est en question puisque nous sommes dans le cadre d'un millefeuille géographique, civilisationnel, historique, culturel et autres, religieux évidemment, qui fait que les allégeances de part et d'autre de mouvances, hein, plutôt d'approches de séparation qui soit tribale ou soit entre différentes catégories de population, eh bien, cette ambivalence vient sanctionner, je dirais, une différenciation par rapport au cadre un peu étroit que nous avons, nous, de l'Europe du 19e. Quand vous parlez tout à l'heure des migrations, la migration internationale, qu'elle soit de la Méditerranée vers l'Europe, par exemple, ou des migrations intérieures, sont des phénomènes qui sont mais intimement liés, je dirais même consubstantiels à la notion de frontière, bien sûr.
Et d'ailleurs, Olivienne parle davantage de seuil. Il a d'ailleurs consacré un ouvrage à ce sujet, frontières et seuil, remarquable ouvrage. Et là aussi,
aux éditions du Rocher.
C'est ça. Et là aussi, c'est notre ambivalence, c'est que la frontière peut être une ligne, mais va davantage être un espace avec une sorte de glacis.
Tout à fait. Un glacis qui peut être en dehors de même des différentes conceptions que nous pouvons avoir, c'est-à-dire ce que l'on a appelé à une époque les frontières naturelles, ce que les grands géographes français ont toujours combattu, la notion de frontières naturelles, les géographes français la combattent, tandis que beaucoup de géopoliticiens, plutôt dans l'ordre idéologique ou déterministe, eh bien, veulent absolument appliquer à leurs communautés humaines. Donc pour revenir au cas du Proche-Orient, effectivement, nous avons des limites qui sont imprécises juridiquement, celles du désert, parlons du Yémen avec l'Arabie Saoudite pour être plus précis, mais en même temps elles sont irrépressibles, irréfragables. Cette frontière est une frontière de sang, une frontière de guerre, une frontière qui juridiquement, l'accord de Taïf a mis un terme à cette violence de part et d'autre, mais en réalité l'accord n'existe pas sur le terrain et on le voit bien dans le conflit qui perdure aujourd'hui que cette question n'a jamais été réglée. Or nous, occidentaux, quand nous arrivons sur le terrain, eh bien, nous ne pouvons pas distinguer quelles sont les différences entre de part et d'autre de cette diade, comme dirait Fouché.
Alors vous évoquez le cas des frontières naturelles, c'est très bien, c'est la question que je voulais vous poser justement. Qu'est-ce qui va faire la frontière? Est-ce que ce sera, donc la frontière va être un espace naturel, alors une montagne ou une rivière, ou est-ce que ce sont les hommes qui font la frontière, donc plutôt l'aspect volontariste, d'ailleurs effectivement plutôt dans la tradition de l'école française?
Alors c'était l'école possibiliste, mais ça vous savez ça mieux que moi, vous nous posez la question, mais vous avez les réponses évidemment, cher Jean-Baptiste. C'était l'école possibiliste, c'était Vidal de la Blache, évidemment les grands Ancel, les grands géographes français, les grands historiens géographes français d'ailleurs, qui ont expliqué pour la France que la France en fait a été construite par sa communauté humaine principalement, et que donc le cadre de frontières naturelles, tout en ayant une vraie valeur, n'était pas une valeur terminale. Alors qu'en revanche, il y a une sorte de déterminisme chez nos voisins allemands, par exemple, il y a une sorte de déterminisme naturel. Déterminisme naturel qui conduisait justement à ce regroupement des communautés allemandes dans un seul Reich, dans un seul empire. Même si plus tard, ils considéreront la frontière comme une membrane leur permettant justement d'évoquer le Lebensraum, la capacité de pouvoir s'étendre dans une vision impérialiste, mais à partir du môle allemand. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour réfuter cette vision, on a une correspondance extraordinaire entre Friedrich Ratzel et justement Ancel, qui explique que en fait, la notion de frontière naturelle est antithétique de l'histoire. La mer qui est censée séparer, par exemple, qui est une frontière naturelle, eh bien, c'est au contraire le lien des différentes cités grecques. La montagne qui est censée séparer, qui serait une frontière naturelle, et ce qui permet à la Russie d'avoir cette ambivalence bicontinentale, à la fois asiatique et européenne. Le désert, également, quand on voit justement combien les déserts, qu'ils soient de Gobi ou autres, ont pu être au contraire des zones de stabilité à l'intérieur d'un même environnement, je dirais, communautaire et civilisationnel. Jusqu'à la passe de Kyber, qui est une frontière qui aurait dû être considérée comme naturelle et qui est une construction en réalité anglaise pour mieux enserrer la Russie lors de ce célèbre affrontement géopolitique du 19e siècle entre la Russie et l'Angleterre.
Mathieu Grandpiron, sur la frontière, il y a la délimitation géographique, mais il y a aussi le discours. La frontière fait partie de l'ordre politique, soit qu'on veuille la défendre, soit qu'on veuille l'étendre. On voit d'ailleurs la guerre en Ukraine, c'est aussi une question de frontière, à faire à la fois de frontière juridique, frontière mentale, frontière historique, où les deux protagonistes d'ailleurs convoquent l'histoire pour justifier que l'Ukraine soit indépendante ou soit russe.
Oui, tout à fait. Pardon. La frontière ne peut pas être déliée de l'histoire puisqu'elle symbolise un processus d'expansion d'un peuple à un moment ou un autre qui, pour différentes raisons, s'est arrêté à l'endroit auquel il s'est effectivement arrêté. Dans certains cas, la frontière ne veut pas dire grand-chose puisqu'il y a des liens économiques et culturels qui font que la frontière n'a pas grand sens. Si on prend l'exemple Belgique, Pays-Bas, ou pour le cas de la Belgique, il y a même des frontières internes dans la Belgique avec des enclaves néerlandaises. Mais pour la question russe, c'est effectivement l'aboutissement d'un processus historique également de reconstruction d'États issus de l'implosion de l'Union soviétique, au sein duquel les différents États dont ils sont issus, en fait, n'avaient que des frontières administratives, dans lequel on rattachait un bout de territoire à telle république socialiste parce que administrativement, ça avait plus de sens, mais ça n'avait aucun sens en termes culturels, ethniques, linguistiques. Et aujourd'hui, on est à une volonté des différents peuples et États, pas seulement la Russie, mais aussi du côté ukrainien, du côté azéri, du côté arménien, de corriger cela et de faire ce qu'ils appellent être leur territoire historique.
Pourquoi est-ce qu'un État va faire la guerre pour modifier un tracé de frontière? Est-ce que s'il fait la guerre, c'est-à-dire qu'il va engager sa force ultime, il va estimer qu'il y a une question de vie et de mort pour lui, et que finalement, faire la guerre, non, ça engendre des pertes, mais c'est une manière pour l'État de survivre. Il faut absolument modifier la frontière, question de vie ou de mort.
Alors oui, il y a ça plusieurs raisons. On peut faire la guerre parce que on peut étendre la frontière parce qu'il y aurait, par exemple, des ressources qui pourraient être vitales pour la croissance économique ou la survie économique de l'État. Ça peut être étendre la frontière tout simplement pour se créer un glacis protecteur et repousser le plus loin possible une menace, qui est la vision russe par rapport à l'expansion de l'OTAN. Cela peut être aussi, d'un point de vue ontologique, symbolique, assurer sa souveraineté et sa sécurité symbolique et identitaire. C'est-à-dire, on va rectifier la frontière parce que la frontière que l'on a actuellement n'est pas celle qu'on devrait avoir, c'est celle qui nous a été imposée dans un moment de faiblesse, par une puissance étrangère, typiquement les Occidentaux. Ça, c'est le cas de la Chine, où depuis l'arrivée au pouvoir de Mao, la Chine continentale n'a eu de cesse que de vouloir recouvrer ces territoires perdus dont elle aurait été dépossédée par le colonisateur occidental. Et on retrouve ça aujourd'hui dans les discours russes et chinois. Il y a toujours un vocabulaire historique qui est expliquant pourquoi légitimement la politique de revendication territoriale. Alors, pour le côté russe, bien évidemment, les républiques du Donbass, la Crimée, et pour la Chine, la mer de Chine du Sud.
Alors, il y a une partie qui est très intéressante, qui est consacrée à la frontière dans les œuvres politiques, littéraires et philosophiques. Alors, il y a trois articles passionnants, dont quatre, pardon, articles, dont un de Frédéric Lemoine sur la question du fascisme et des frontières. Mais au-delà de ça, cette partie montre que la frontière est
est aussi une question de représentation et qu'on va la voir effectivement dans des œuvres théâtrales, romanesques, et que ça fait partie de la construction de la frontière. La frontière n'est pas uniquement une question militaire ou juridique.
Non, la frontière, c'est une manière de répondre à la question qui sommes-nous, à la fois comme entité civilisationnelle, culturelle, linguistique, ethnique, et il n'est pas du tout étonnant que c'est un thème qui va irriguer un certain nombre de productions littéraires, philosophiques, théâtrales, romanesques, et ces œuvres, en retour, vont contribuer à façonner les mentalités et les esprits. Donc c'est tout à fait normal également de les étudier et de voir surtout, de prendre l'œuvre littéraire comme un arrêt sur image à un moment précis de comment, au 19e par exemple, au 20e, tel penseur concevait cette notion, et de voir est-ce que sa perception est faussée, est-ce que sa perception est toujours d'actualité, est-ce qu'il y a eu un changement aussi dans les mentalités.
Si vous me permettez, je prolonge ce que dit Mathieu, c'est qu'effectivement, le phénomène de la frontière est lié intimement à la notion d'identité. Pour pouvoir avoir une frontière, il faut soi-même s'être identifié. Alors vous me posez la question, et vous aurez raison, de la frontière ou de l'ex-frontière ou de ce qui n'a jamais été une frontière et qui constitue la photo de couverture de notre ouvrage, c'est-à-dire la muraille de Chine. Alors je vais vous citer Deng Xiaoping qui dit « I wo zangua zi wo chancheng ». Aimons notre Chine, relevons notre grande muraille. Il dit ça en 1984, et pourquoi en parle-t-il? Parce qu'il redéfinit le rôle de la grande muraille comme axe, pivot, gardienne, symbolique de l'unité culturelle de l'Empire. On a bien entendu, unité culturelle de l'Empire. Alors même que ce formidable monument hein, qui s'étire sur des milliers de kilomètres, eh bien, était plutôt présenté comme étant une frontière face à l'étranger. Non, c'est maintenant un phénomène axial de, entre guillemets, le nouvel empire chinois.
On a aussi en France, dans la partie littéraire, quand on évoquait la ligne bleue des Vosges, c'est aussi inscrire dans un cadre poétique, mais une réalité politique, qui est la frontière entre la France et l'Allemagne, et notamment le terrain à reconquérir à l'époque où l'Alsace était allemande.
Absolument. On a eu là aussi une définition des deux visions françaises et allemandes dans les écoles de géographie politique puis de géopolitique. L'école géographique française qui est devenue l'école géopolitique française et puis les géopolitiqueurs allemands qu'ils étaient essentiellement évidemment Friedrich Ratzel ou Haushofer au moment de l'entre-deux-guerres et de la Deuxième Guerre mondiale. On voit bien ces différences d'approche culturelle de la frontière et de l'identité nationale qui conduit à deux, je dirais, doctrines géopolitiques qui conduit donc à l'affrontement en fait entre une délimitation nationale et une délimitation impériale.
Il y a le cas intéressant de l'Union européenne parce que l'Union européenne a voulu abroger les frontières internes. Alors, à la fois, on n'a plus notre passeport pour aller en Italie ou en Espagne. Abroger également les frontières fiscales, les frontières normatives, les frontières juridiques. Pourtant, elles continuent à exister. D'ailleurs, c'est un débat aussi, notamment sur la fiscalité entre l'Irlande et la France, par exemple. Et puis, l'Union européenne a recréé les frontières à l'extérieur, qui sont des frontières de sang. Quand on voit les drames en Méditerranée ou dans les Balkans, des personnes qui perdent, pour certaines, leur vie en franchissant la frontière.
Ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus général. Alors, il y a une particularité de l'intégration européenne et qui fait l'objet de deux ou trois chapitres, mais il y a aussi, je dirais, un aspect beaucoup plus large qui est celui de la libéralisation des échanges de flux, le libéralisme économique, évidemment, le libéralisme politique, le libéralisme, disons, humanitaire, celui de la solidarité. Donc, on voit bien que là aussi, c'est une position qui était majoritaire, tout autant que l'école idéaliste, dans la vision du système politique qui transforme en réalité la décision politique ou l'identité politique vers une gouvernance avec, disons, un citoyen du monde. Donc on en est revenu, évidemment, il y a tout un processus que Mathieu saurait beaucoup mieux expliquer que moi, mais on voit bien que l'Union européenne rentre dans ce cadre. Et d'ailleurs, les derniers mots des mémoires de Jean Monnet, c'est pour dire que le système d'intégration européen est peut-être l'un des éléments qui est de passage, qui fait le lien avec une sorte de gouvernance mondiale. C'est très intéressant de le constater.
Oui, et puis on constate à l'heure actuelle que certains États membres de l'Union européenne reviennent vers une position de rétablissement de frontières. que ça passe par des tarifs, des droits de douane sur certains produits. On pense par exemple à la réaction polonaise voulant se protéger par rapport à l'afflux massif de produits agricoles ukrainiens et qui risque de tout simplement bouleverser son modèle économique. On peut également penser à des États mettant entre parenthèses l'espace Schengen pour rétablir des contrôles aux frontières afin de faire face aux flux de réfugiés et autres clandestins.
Ce qu'avait fait la France après l'attentat de 2015, on avait temporairement suspendu Schengen pour contrôler les flux, notamment entre la France et l'Italie.
Oui, et puis on peut également penser à des pays membres de l'Union européenne qui construisent des murs tout simplement pour également pouvoir filtrer et maîtriser les frontières qui sont, alors, vu leur réalité, des espaces ouverts. Pensez à la Hongrie, on peut penser également à la Grèce vis-à-vis de la Turquie. Il y a aussi, dans certains cas, des États qui sont séparés par des frontières, mais dans lesquels les transferts de population tentent soit à harmoniser ou en tout cas à complexifier le problème. On peut penser au cas de Chypre. Donc tout ça montre que même si il y a une volonté de se débarrasser des frontières, celles-ci, d'une manière ou d'une autre, vont forcément, à un moment donné, revenir et ou en tout cas se représenter.
Dans l'idéal incarné par l'intégration, on a eu quatre phases et nous sommes dans la cinquième. La première phase, c'est la frontière sublimée. C'est la déclaration Schuman, lien et moyen de réconciliation franco-allemand sur la base d'une communauté de gestion des industries de base. C'est la nouvelle Lotharingie territorialisée, mais à base de supranationalité ouverte avec la haute autorité. La deuxième phase, c'est la frontière intérieure, qui est conçue, qui est représentée comme un obstacle, la frontière, au cycle inéluctable d'unification européenne, en fait, d'intégration. Et qui est vaincu, cette frontière, par le marché commun, le marché unique, les quatre libertés de circulation. Troisième élément, la frontière extérieure, qui doit être sans cesse élargie. C'est la new frontière européenne, pour paraphraser la new frontière américaine. Au fur et à mesure des élargissements successifs, jusqu'à une dimension dont il apparaît aujourd'hui qu'elle est quasi continentale. Et puis, une frontière seulement géographico-politique, transcendée par un idéal d'intégration et d'indistinction. Je vous parlais tout à l'heure. Du citoyen du monde, multiparamétré, si on peut dire, en termes d'identité, qui favorise, par exemple, l'adhésion turque ou d'autres éléments, comme le partenariat oriental ou le partenariat méditerranéen. Pourquoi je parle d'une cinquième phase? C'est justement celle qu'évoquait Mathieu. Nous sommes dans l'actualité vraiment immédiate, l'histoire se faisant, comme on dit, c'est-à-dire que, très clairement, là, il y existe une remise en cause par l'école réaliste, celle qui reprend ses droits sur la création de ou le rétablissement de vraies frontières, de vrais rapports, je dirais, de part et d'autre, d'une séparation politico-administrative qui est rendue un peu obligatoire peut-être par les excès de la précédente période. On le voit bien dans la gestion des migrations. La migration en soi a toujours existé. Le problème aujourd'hui est un problème de masse. Dans les ravages économiques d'une libéralisation sans contrainte, soit en termes de concurrence, soit en termes tout simplement de perte des savoir-faire, et puis également une ouverture sur la table de la sécurité. La guerre étant déjà réapparue au début des années 90 avec le conflit yougoslave et qui est maintenant d'une phase dure avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et nous rappelle que la frontière est un peu nécessaire quand il s'agit de stratégie et de guerre de troisième, quatrième ou même cinquième génération.
Pour avoir une frontière, il faut aussi avoir une armée qui est capable de la défendre. Donc ça pose aussi la question de la défense et puis de
Oui, mais au-delà de l'armée, ça suppose surtout la question d'une politique étrangère, parce que l'armée, c'est un outil de défense, mais encore faut-il concevoir qui est la menace, qui est le partenaire, qui est le rival, qui est l'allié, et ça, on ne peut le faire que s'il y a une politique étrangère cohérente, ce qui est le drame actuel des différents pays européens, et en tout cas de l'Union européenne.
Il y a un ministre de l'Union européenne chargé des affaires étrangères, mais personne ne connaît le nom et ne sait vraiment à quoi il sert. D'ailleurs, il n'intervient pas du tout sur la question ukrainienne.
Non, et là, on peut, mais c'est aussi le problème avec les pays européens qui sont dans deux structures différentes et soi-disant complémentaires, donc l'Union européenne et la plupart également pour membres de l'OTAN, mais qui se révèle être de plus en plus un outil de politique étrangère et d'influence américaine. C'est-à-dire dès lors que l'on est membre de l'OTAN et que l'on n'a pas d'armée, ou en tout cas, on ne peut pas échapper à la vision américaine de la politique étrangère. C'est-à-dire quand on devient membre de l'OTAN, ça revient de facto à adopter la vision du monde des États-Unis. Donc avec les rivalités créées par les États-Unis pour correspondre à leurs intérêts, peu importe. Mais en tout cas, membre de l'OTAN, ça veut dire qu'on va voir le monde comme un Américain le verrait.
Donc la frontière va être aussi un enjeu d'indépendance, de liberté par rapport aux États.
Alors oui, liberté tout simplement de pouvoir choisir son mode de vie, son système politique, ses mesures économiques. Il y a certains États, alors toujours pour reprendre dans l'Union européenne, qui ont, c'était le cas avec le Brexit, c'était le discours, reprenons notre liberté, reprenons assez des normes imposées par l'Union européenne, reprenons notre indépendance juridique, économique, et définissons nous-mêmes comment nous voulons vivre et selon quelles modalités.
Autre sujet sur l'action des frontières, on voit des frontières contestées. Alors on l'a vu récemment en Amérique latine, le Venezuela a eu des velléités de prendre une grosse partie de la région de son voisin, le Suriname. On a devant le cas ukrainien, mais pas uniquement, en Éthiopie, au Yémen. On voit émerger depuis 10 ou 15 ans des frontières qui sont contestées. En Afrique aussi, et il y avait consacré un chapitre dans l'ouvrage, la question de savoir si ces frontières sont légitimes ou non. Est-ce que c'est des frontières héritées de l'époque coloniale et qui engendreraient les drames africains? Mais finalement, ces frontières-là, personne ne les a remises en cause.
Non, mais d'un certain côté... C'est difficile aussi de tout remettre en cause, parce que surtout quand elles sont issues du processus colonial, ça créerait énormément de difficultés. Quid également de certains peuples. Donc là, on est face en Afrique où les États sont des constructions arbitraires qui regroupent certains peuples qui ne s'apprécient jamais à travers l'histoire, maintenant doivent cohabiter. Mais si on commence à détricoter les frontières, on ouvre une boîte de Pandore, et peut-être qu'il est plus sage, tout simplement, dans certains cas, de ne pas chercher à le faire.
Il y a deux éléments très importants dans cette histoire qui sont des éléments principiels et qui ont des conséquences sur le terrain, si je puis dire. Le premier, on l'a dit tout à l'heure, c'est le lien vraiment dialectique entre l'identité et la frontière. C'est pour ça que nous avons sous-titré « Espace et limites ». Et ce lien va parfois, on parlait de pluridisciplinarité dans cet ouvrage, parfois à l'encontre de principes du droit. Le principe du droit, c'est l'intangibilité du droit international public, c'est l'intangibilité des frontières. Eh bien oui, l'intangibilité des frontières peut entrer en contradiction avec les droits du peuple des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc on l'a bien vu dans différents conflits, comme le conflit yougoslave. On le voit sur des aspects qui peuvent sembler dérisoires, mais qui conduisent à des guerres vraiment terribles, hein, comme entre la Libye et le Tchad, sur le morceau de désert qui était le Tibesti, ou le lien entre éleveurs et nomades, entre le Mali et le Burkina Faso. C'est peut-être des marécages, du sable recelant d'abondantes ressources énergétiques entre l'Iran, l'Irak, le Koweït, qui là aussi ont été des conflits majeurs. Ce peuvent être des îles lointaines et périphériques, hein, comme les Kouriles, qui ont troublé la relation entre le Japon et la Russie. Évidemment, le lien entre la frontière et la gestion des ressources fondamentales, comme l'eau douce par exemple, est à l'origine de beaucoup de conflits entre la Turquie, la Syrie, l'Irak, à propos des eaux du Tigre et de l'Euphrate, Israël, avec ses voisins jordaniens et syriens à propos du Jourdain, ou le Karnataka et le Tamil Nadu en Inde, à propos des eaux de la Kaveri. Donc on voit bien que ces conflits frontaliers sont issus de cette dialectique entre une ouverture et une fermeture, entre un espace et une limite.
Alors, le livre est conclu par Philippe Benetton, qui est professeur de sciences politiques, et qui, donc, dans sa Postfast évoque le bon usage des frontières. Est-ce que la frontière, ce n'est pas finalement la preuve de l'histoire, et le fait que, alors c'est une donnée géographique, évidemment, mais la preuve que l'histoire existe, que les hommes font l'histoire, et que supprimer la frontière, ce serait supprimer l'histoire?
Alors oui, c'est supprimer l'histoire, à la fois tout simplement parce que supprimer la frontière, ça revient à supprimer tout ce qui a fait, par exemple, qu'un peuple soit ce peuple-là à l'heure actuelle, fait que ce pays est ce qu'il est, et d'un autre côté, vouloir une intangibilité à tous les coups de la frontière, ça leur revient aussi à vouloir supprimer la continuité de l'histoire. La frontière rien ne nous dit que dans 100 ans, les frontières seront ce qu'elles sont. Les populations pourront s'étendre, se contracter, certains États pourraient décider de davantage s'intégrer, d'autres de se séparer.
Fondamentalement, votre question, la réponse est dans la question que vous posez, c'est-à-dire que oui, l'histoire est consubstantielle, les frontières sont consubstantielles de l'histoire. Il y a un lien depuis la création des communautés humaines, quelles qu'elles soient d'ailleurs, de la plus petite à la plus grande, il y a un lien consubstantiel entre leur évolution et la délimitation de cette évolution. Pour Benetton, il explique bien que la nuance à la fois philosophique et pluridisciplinaire, je dirais, de l'approche de la frontière fait la civilisation. La frontière est un élément qui permet à la civilisation de se constituer, de se renforcer à l'intérieur, puis de se diffuser à l'extérieur. Encore une fois, nous retrouvons cette capacité de la frontière d'être à la fois une limite qui permet l'épanouissement, le développement d'une civilisation, et en même temps le passage et la diffusion, l'efflorescence de toutes les capacités civilisationnelles de la communauté humaine concernée.
Merci beaucoup à tous les deux, Mathieu Grandpiron et Christophe Réveillard.
Merci.
Votre ouvrage, La frontière, espace et limites, qui est paru chez SPM, référence à retrouver sur le site de Conflit, de très nombreuses contributions. Vous verrez qu'il y a des sujets passionnants, bien approfondis, en même temps tout à fait accessibles. Et c'est vraiment l'ouvrage essentiel pour tous ceux qui ont ces questions-là à des concours ou à des examens. Vous avez là un excellent manuel qui vous donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien réussir vos épreuves. Et même si vous n'avez pas de concours à réaliser, évidemment, l'ouvrage reste tout à fait intéressant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour notre émission.